On va reprendre la lecture au psaume 16, au verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Dans Néhémie 8, et au verset 10, et Néhémie leur dit : Allez, mangez de ce qui est gras et buvez de ce qui est doux, et envoyez des pensions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et dans Romains, au chapitre 15, et au verset 13. Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 8 à 11. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. Au chapitre suivant, les versets 20-24. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Et vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous, donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Au chapitre 17, les versets 11 à 13. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux qui sont dans le monde, et moi, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je viens à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, les quatre premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée, ayant le même amour, étant dans le même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et dans la deuxième épître, le verset 12. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie.
Voilà, donc ce matin, nous avons réfléchi sur cette pensée que notre Dieu est un Dieu joyeux, et nous avons donc redécouvert en quelque sorte cette joie de Dieu. Et ce qui un peu m'a frappé au départ, c'est d'entendre que Dieu n'a pas besoin de raisons particulières pour trouver de la joie, mais il a de la joie en lui-même, ce qui n'est peut-être pas notre cas à nous, et parce qu'on découvre que notre joie est le résultat de voilà, d'un plaisir qu'on a trouvé, une satisfaction, un objet, comme si on a reçu un cadeau. Alors, voilà, on se réjouit, comme on a aussi pu dire ce matin. Voilà, si pour ceux qui ont pu se marier, et ben voilà, ils reçoivent leur épouse ou leur mari avec joie. Voilà, donc ce Dieu qui est un Dieu bienheureux et qui a trouvé sa joie aussi dans la création, dans son Fils, dans ce qui se passe dans le cœur des êtres humains lorsqu'ils redécouvrent le chemin de ce Dieu qui les a créés. Voilà donc ce qui a occupé nos cœurs ce matin et qui nous amène à l'adoration. Mais voilà, cet après-midi, nous allons être davantage occupés de nous-mêmes et de notre joie. On avait commencé en disant que c'est l'aspiration de tous les humains de rechercher la joie, et avec la joie, la paix, bien sûr. Et peut-être qu'il y a plusieurs chemins pour trouver cette joie, une joie qui pourrait devenir, dans certains cas, éphémère, ou peut-être une joie qui peut être plus durable. Avant d'être chrétien, l'homme est un humain. Et on se pose la question, est-ce que parce qu'on est chrétien, on ne peut trouver notre joie que en Dieu, c'est-à-dire dans une sphère qui se déconnecte de la réalité de la vie et qui m'amène dans un contact personnel avec Dieu. Est-ce que lorsque je suis chrétien, finalement, après tout ce qui est de la vie, de ce que je vois avec mes yeux, des arbres ici, des fleurs, est-ce que ça, je deviens complètement indifférent. Et si je pose quand même cette question, c'est que ça a réellement été une question. J'ai pris une citation de Saint Augustin, qui considérait le plaisir comme une chose mauvaise. Et puis les bénédictins qui considèrent les privations comme une manière de plaire à Dieu. Alors on est dans une société qui propose une quantité extraordinaire de plaisir pour nous amener à la joie. Alors est-ce que dans quel côté faut aller? Ou est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre les deux? Alors voilà, peut-être que cet après-midi, on va être amené à peut-être réfléchir sur la joie que nous pouvons trouver en Dieu et ce qui serait peut-être la spécificité ou le secret du chrétien, vraiment de celui qui a une relation avec le Dieu vivant. Et puis, ce côté de la joie avec Dieu, qui pourrait nous amener peut-être à voir des choses de la vie courante qui se passe sur la terre avec les yeux de Dieu, entre guillemets, avec Dieu, et qui pourrait nous amener à vraiment nous réjouir. Et voilà, c'est une question, c'est un peu une introduction dans ce sens qu'on aimerait réfléchir cet après-midi, puisqu'on voit qu'il y a un partage de joie entre Dieu et nous. Et puis, dans la deuxième partie, après la pause, puisqu'on désire avoir une pause entre 15h15 et 15h30, peut-être qu'on serait amené à réfléchir sur un sujet un peu particulier et que nous avons un peu nommé la joie et la souffrance. Et on avait mis deux points, mystère et but divin. On était frappé parce que en lisant le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus propose à un moment donné à ceux qui les écoutent, 10 fois il leur dit « vous êtes bienheureux ». Et entre autres, il leur dit « bienheureux si vous êtes persécutés à cause de la justice, quand on vous injuriera ». Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il s'adresse à des extraterrestres ? Parce que, voilà, soyez heureux parce que ça se passe très très mal pour vous. Voilà, c'est une question qui m'interpelle, enfin, ça m'interpelle. Et peut-être dans la fin de l'après-midi, on pourrait un peu voir qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire. Parce qu'il parle de joie et en plus que des choses se passent mal. Mais en même temps, je reviens sur l'introduction de ce matin. Il y a peut-être des situations où on ne peut pas vraiment, même comme chrétien, se réjouir aujourd'hui. Et ça, il y a des circonstances dans la vie où c'est normal. Mais encore une fois, si cette journée peut nous encourager à se dire, mais voilà, je vis des choses, mais est-ce que je peux faire intervenir Dieu dans ces choses-là? Est-ce que ça pourrait transformer, non pas les circonstances parce que je les vis, mais la manière de les approcher et de trouver quelque chose qui réponde un peu à ce sentiment dont nous parlons aujourd'hui, la joie.
Ce que vient de dire Philippe nous encourage à prendre le sujet un peu plus en amont. Peut-être d'un peu loin, mais pas si loin que ça. Il est communément admis que l'être humain, vous et moi, nous connaissons 4 émotions de base. Il y en a d'autres, mais 4 émotions de base. La colère, la peur, la tristesse et la joie. La colère, nous en avions parlé avec Éphésiens 4, il y a 2 ans ici. La colère est une émotion au niveau de l'âme qui se manifeste par un événement souvent présent. La peur, c'est une émotion de l'âme qui se manifeste par rapport à quelque chose qui est généralement devant nous, que nous appréhendons. La tristesse, c'est l'émotion de l'âme par rapport à un événement qui s'est passé, qui est souvent derrière nous. Nous avons perdu quelque chose. Seule la joie est éternelle. Donc, l'âme est le siège des émotions. On a dit aussi que les émotions sont à l'âme ce que les sensations sont au corps. Si je touche avec ma main quelque chose de doux, j'ai une sensation de bien-être. Si je touche une plaque brûlante, c'est désagréable, ça me fait mal. Ça, c'est les sensations. Maintenant, pour les émotions. si je lis un mail ou une lettre avec une bonne nouvelle dedans, je ressens une sensation de plaisir, de bien-être, de joie dans mon âme. Si cette bonne nouvelle est une très bonne nouvelle, ça peut avoir des répercussions sur mon corps, c'est-à-dire une expression corporelle de l'émotion de mon âme, c'est-à-dire mon visage va s'épanouir, va s'éclairer, même peut-être des larmes de joie vont couler. Bon, suivant la culture, certains vont sauter de joie. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de la culture. Si par contre je lis un mail avec une mauvaise nouvelle, une lettre, eh bien je vais ressentir de la tristesse au niveau de mon âme. Si la nouvelle est très mauvaise ou même dramatique, mon visage va être douloureux. Je vais avoir des traits de tristesse et peut-être même des larmes vont couler. Ça, c'est la traduction corporelle des émotions de mon âme. Mais on a compris, tout ça, c'est dû à notre environnement. Ce sont des émotions au niveau de notre âme, mais qui sont dues à notre environnement, soit des bonnes choses agréables, soit des choses difficiles. Et nous sommes tous confrontés à cela, au niveau des circonstances. Alors peut-être aujourd'hui, il y a des personnes ici dans cet auditoire pour qui la tristesse domine. Et il ne faut pas qu'elle se culpabilise, comme a dit Philippe. Il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on est triste. C'est pas étonnant avec tout ce qui vous est arrivé ces derniers temps, toutes les circonstances que vous connaissez. Bon, parfois, pour d'autres, la joie va dominer parce que les circonstances sont paisibles, sont favorables, mais nous sommes tous là dans l'humanité. Comme le dit Philippe, on ne peut pas se mettre dans une bulle disant, bon, on va jouer du Seigneur, on va se réjouir en Dieu. Non. Non, on est dans l'humanité, on a des émotions suivant l'environnement. Mais alors, ce qui nous est proposé cet après-midi, et je vois le ministère de l'Esprit cet après-midi comme une sorte de ministère pastoral aussi. Bon, bien sûr, il y a l'exégèse, parce qu'il faut faire attention au texte de l'Écriture qui nous parle de la joie, mais un service pastoral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous et moi, tous, qui sommes dans un environnement plus ou moins agréable, eh bien, peut-être justement à l'adresse de ceux qui sont tristes, surtout. Eh bien, le Saint-Esprit, cet après-midi, veut nous relever, nous relever la tête pour nous montrer d'autres sources de joie que notre environnement, plus ou moins favorable. Et les frères ont eu raison de mettre en tête Dieu, se réjouir en Dieu, c'est la source de la joie. Et alors que les joies et les tristesses sur le plan de l'environnement, nous les avons en commun avec les incroyants. Bien sûr, parce que nous sommes dans l'humanité. Nous les avons en commun. Nous les vivons pas de la même façon. Les joies, nous les vivons avec Dieu. Nous les recevons de Dieu. Et plus on avance dans la vie, plus on remercie Dieu pour les joies. Parce qu'on fait l'expérience qu'elles sont fragiles, parce qu'elles sont humaines. Mais on remercie Dieu pour les joies. Et il y a toutes sortes de joies. Dans le couple, dans la famille, mais aussi par un beau jour de printemps, en voyant une belle fleur, etc. Des petites joies que Dieu nous donne. Nous disons merci. Mais elles sont fragiles. Mais justement, Jésus est venu nous ouvrir les secrets d'un autre monde, le monde de Dieu, le monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ces joies spirituelles, c'est-à-dire invisibles, elles sont la part exclusive du croyant. Parce que pour avoir part à ces joies spirituelles, il faut la foi dans l'Écriture, en Dieu. Ces joies spirituelles, elles sont complètement fermées à l'incroyant. Tandis que sur le plan matériel de l'environnement, bien sûr que nous avons en commun des joies et des tristesses terrestres avec les incroyants. Donc là, nous sommes occupés cet après-midi, et le Saint-Esprit nous relève nos têtes, si elles sont courbées par les circonstances, pour voir, pour découvrir un autre monde, d'autres sources de joie, celles-là, inaltérables, mais nous nous en saisissons plus ou moins bien, certes. Nous sommes là pour nous encourager à les saisir. Et la première, c'est en Dieu, se réjouir en Dieu. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. On a tant de passages où des fidèles se sont réjouis en Dieu. Et ça, ça demande un préalable, ça demande d'explication, se réjouir en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement?
Les chrétiens ont toujours eu un peu de mal par rapport aux émotions, et je reprends effectivement tes quatre aspects des émotions. On avait eu l'occasion d'élaborer un peu sur le sujet de la colère il y a quelques années. J'aimerais lire un texte qui a déjà été évoqué en Philippiens 4, au verset 4. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai. Réjouissez-vous. » Texte connu s'il en est sur le sujet de la joie. Mais remarquons, c'est un verbe à l'impératif. L'impératif. Vous me direz, mais mes émotions, je ne les contrôle pas. Si je suis joyeux, je suis joyeux. Si je suis triste, je suis triste. C'est comme ça. Or, l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de Paul, nous dit, réjouis-toi, réjouissez-vous. C'est un ordre. Et on peut le rapprocher de ce commandement nouveau que le Seigneur a laissé, aimez-vous les uns les autres. Là aussi, on pourrait dire, mais l'amour, on ne le force pas. Il est là ou il n'est pas là. Alors, pourquoi a-t-on ces commandements? Réjouissez-vous, aimez-vous. Tout simplement, il me semble que, et sans doute cet après-midi, nous l'espérons, pourra y contribuer, c'est que nos émotions, effectivement, nous les recevons. Comme tu dis, on ne contrôle pas, c'est quand on reçoit un mail négatif, on ne contrôle pas l'impulsion immédiate que l'on reçoit. Mais dans une mesure, et en particulier en étudiant la parole de Dieu, en réfléchissant, en contrôlant nos pensées, eh bien, on peut, me semble-t-il, dans une mesure, contrôler aussi ses émotions, d'une certaine manière. Dans le chapitre 23 des Proverbes, auquel nous avons emprunté déjà deux lectures ce matin, il est dit au verset 7, « Tel qu'il a pensé dans son âme, tel il est. » Autrement dit, si je rumine toujours des pensées négatives, j'aurai beaucoup de peine à me réjouir. Et par contre, si consciemment je pense à des choses qui sont des sujets de joie objectifs, et nous en verrons en particulier ces sujets de joie en Dieu, dans le Seigneur, comme il l'est dit ici, eh bien, cela va me permettre de vivre dans une atmosphère plus joyeuse et de me réjouir. Pas me réjouir forcément dans les circonstances qui arrivent, hein. Elles peuvent être négatives, elles peuvent être objectivement un sujet de tristesse, et je ne vais pas me forcer à y trouver de la joie alors qu'elle n'y est absolument pas. Ne serait-ce que si, par exemple, il y a un élément de péché, il est dit « rendez grâce en toute chose », c'est pas « rendez grâce pour toute chose », c'est dans toutes les circonstances, mais pas pour les circonstances elles-mêmes. S'il arrive un vol, un viol, ou que sais-je, des choses épouvantables, eh bien, on n'a pas à se réjouir de cela. Au contraire, on a à le condamner fermement. Mais on peut trouver néanmoins une couverture de joie qui peut parcourir notre vie, et nous sommes encouragés à nous réjouir avec cet impératif, autrement dit, à forcer un petit peu nos émotions dans un certain sens, et à réfléchir, à penser pour être, à penser à nos sujets de joie pour être joyeux. Et comme cela, à mettre en pratique ce verset qui sinon peut nous paraître extrêmement difficile, parce que on voit pas comment on pourrait obéir à un impératif comme celui-là. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Seigneur? Ça peut vouloir dire, me semble-t-il, trois choses. Ça peut vouloir dire comme le Seigneur. Je pense qu'il était tout à fait légitime de ce matin de commencer par l'exemple du Seigneur et d'apprendre de lui, l'homme parfait. Ça peut être aussi grâce au Seigneur, dans le Seigneur, grâce au Seigneur, avec, par exemple, se réjouir dans le salut qu'il nous a donné, qui est un élément permanent de joie pour le chrétien, se réjouir dans le salut. Et ça peut être aussi avec le Seigneur. Et là, par exemple, on peut y inclure toutes les joies purement humaines, mais que l'on va vivre avec lui. Donc, comme le Seigneur, grâce au Seigneur, avec le Seigneur, nous réjouir.
Les passages qui ont été cités au début, le psaume 16, verset 11, Galates 5, 22, psaume 119, 162, le second étant celui dont vient de parler Joël, Philippiens 4, 4, indique bien justement l'orientation que Dieu donne. Si on lit soigneusement le psaume 16, on découvre évidemment l'exemple des exemples avec le Seigneur. On trouve cette vie de communion, cette satisfaction en Dieu, la vie avec Dieu, le fait de recevoir les choses qui sont à vivre de Dieu, comme s'inscrivant dans une nécessité qui est trouvée agréable, même si les choses sont difficiles. Les cordons sont tombés pour moi en des lieux agréables. Même si les choses vont être difficiles, il y a, quand les choses sont reçues de Dieu, viennent de lui, sont ressenties comme une nécessité divine de l'amour pour obtenir un résultat qui n'aurait pas pu être obtenu sans ce cheminement-là, c'est quelque chose de magnifique, et cette vie-là conduit à la jouissance d'une communion, d'une présence et d'une contemplation qui est effectivement un rassasiement de joie. Le troisième passage, celui de Galates 5, 22, précise que nous avons une ressource et l'Esprit opérant en nous produit quelque chose, et dans les fruits de l'esprit, il y a la joie. Donc, vous voyez, toujours un lien avec Dieu, toujours une action divine, toujours une relation avec Dieu, et laisser Dieu agir en soi, avec ce passage-là. Troisième passage, lié à un autre de Jérémie 15, met en évidence une source dans laquelle nous pouvons puiser à chaque instant la parole elle-même. Source de joie. Je le dis souvent, j'ouvre la Bible, pas pour savoir personnellement ce qu'il y a dedans de manière à être capable de citer tout un tas de choses, non. J'ouvre ma Bible parce que Dieu me parle dans la Bible. Parce que je le découvre, parce que je le rencontre. Il y a pour moi là une source d'allégresse. Je suis bien là quand je m'arrête, que je lis les paroles de Dieu, que je laisse les pensées de Dieu pénétrer en moi pour ce qu'elles deviennent, pour qu'elles deviennent mes pensées. Voilà donc quelque chose qui donne un chapeau, si on veut, une direction très forte qui va pouvoir nous diriger dans le détail des autres passages qui ont été présentés.
Peut-être dans la pensée de se réjouir dans le Seigneur, c'est aussi entretenir jour après jour une relation avec un Seigneur vivant. Celui qui est en nous, celui qui est avec nous, celui qui nous accompagne, celui qui nous soutient, celui qui donne la force. Et dans cette relation de communion, cette relation vécue avec une personne vivante, les circonstances peuvent être vécues différemment. Quand on regarde dans Philippiens, au chapitre 4, verset 10, donc la suite de ce qu'on a lu, parce que souvent on dit se réjouir dans le Seigneur, et c'est un peu entendu comme une formule et qui devient très creuse parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Et quand on dit aussi c'est se réjouir dans le Seigneur indépendamment des circonstances, et à ce moment-là on peut rendre quelqu'un ou être soi-même très déprimé parce que on n'arrive pas à se sortir des circonstances, parce qu'on rame, parce que c'est, il faut être, comment dire, il faut être honnête. Nous sommes avec nos limites, nous sommes avec nos questions, nous sommes avec nos souffrances, nous vivons au jour le jour, etc. Alors, chapitre 4, j'ai éprouvé une, verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre intérêt pour moi. Vous aviez bien pensé, mais l'occasion vous manquait. Je ne parle pas en raison des privations, car j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Je sais être dans le dénuement, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes circonstances, à tous égards, je suis enseigné, aussi bien être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je peux en tout en celui qui me fortifie. Paul est en prison, et puis voilà que les Philippiens viennent lui manifester leur intérêt et viennent l'aider. Et ce, tout d'un coup, donc, j'ai oublié ses paraphrases, est arrivé avec le don des Philippiens, avec l'amour des Philippiens, et Paul ne se réjouit pas parce qu'il a eu ça simplement, il se réjouit dans le Seigneur parce qu'il vivait avec le Seigneur à ce moment-là. Il prend cela comme étant du Seigneur. Et il donne un peu un secret. Son secret, c'est que il a appris cela. C'est une forme d'éducation avec le Seigneur, apprendre jour après jour à partager nos circonstances avec le Seigneur, les bonnes et les mauvaises. Et là, il dit ceci, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans les privations, et je suis enseigné à travers tout cela. Et il conclut, je peux tout en celui qui me fortifie. Il y a peut-être une chose que nous réalisons pas toujours bien ici, en Europe, c'est qu'on a une vie qui est assez facile, bien qu'on se plaigne toujours. Et on a l'impression, en tout cas, d'avoir un peu plus prise sur les événements qu'ailleurs. Quand des frères et sœurs qui vivent dans des endroits beaucoup moins privilégiés matériellement ont appris ou sont, j'allais dire, contraints par l'impuissance qu'ils ont pour agir sur les circonstances, d'ouvrir la porte au Seigneur à tout moment, de demander l'aide au Seigneur, de se remettre en les mains du Seigneur pour faire un voyage, pour ceci, se réjouir quand on est revenu, et ainsi de suite. Et ils apprennent, par cette manière-là, cette manière de vivre, ils apprennent à introduire ou à vivre avec le Seigneur toutes circonstances. Alors, je crois que nous, on a un peu de mal avec ça. On a des parties dans notre vie où on a l'impression qu'on peut se débrouiller tout seul. Et probablement que c'est un piège du diable pour nous laisser dominer petit à petit par les circonstances, bonnes ou mauvaises. Bonnes, on oublie le Seigneur. Mauvaises, on se demande où il est. Et il me semble que la leçon de Paul ici, qu'il avait apprise, c'est celle que le Seigneur veut que l'on apprenne. J'ai appris à être content dans les circonstances où je me trouve, en étant dans cette relation avec le Seigneur, où la source, à ce moment-là, de la paix, de la joie, de la sérénité, se trouve en lui. Ce qui fait que, par exemple, plus tard, quand il est en prison, juste avant la mort, juste avant d'être condamné, il dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Mais il a vécu ça avant. Et j'ai besoin d'apprendre à vivre jour après jour dans cette proximité du Seigneur. Ouvrir la porte au Seigneur dans toutes mes circonstances. Et là, la joie peut se vivre.
Je crois que lorsqu'on a réfléchi sur ce sujet, on a donc mis en évidence que l'origine, la source vraiment de la joie chrétienne est en Dieu. Et ça, c'est indépendamment de nous. Quand il est écrit « La joie de l'Éternel est votre force », qu'on l'apprenne ou qu'on ne l'apprenne pas, ça va être notre problème. Mais la joie de l'Éternel est pour nous. Dans le texte qu'on a lu dans le psaume 16, David, donc c'est, on l'applique au Seigneur certainement, mais c'est d'abord David qui peut écrire ça, et je relis ça, « Ta face, c'est-à-dire ta présence, est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Donc la joie de Dieu est là, pas pour lui-même, mais à disposition de ceux qui veulent prendre. La troisième chose que nous avons vue dans Romains au chapitre 15, c'est que le Dieu d'espérance. Qu'est-ce que fait ce Dieu d'espérance ? Qu'il vous remplisse de toute joie et paix en croyant. Donc, toute cette joie est dans la personne de Dieu, c'était le sujet de ce matin. Elle est à la disposition de qui ? De ceux qui croient, de ceux qui acceptent justement cette réalité, cette vérité, que Dieu est un Dieu joyeux, qui est caractérisé par la joie, et que c'est une joie tellement abondante qu'elle déborde pour tous ceux qui en veulent. La troisième chose, c'est que nous n'avons pas lu, mais dans Galates, au chapitre 5, il est dit le fruit de l'esprit et l'amour, la joie, etc. Donc dans ce sens-là, nous n'avons pas à essayer de chercher comment je vais pouvoir être joyeux. La solution, elle est là, c'est un fruit. Un arbre, il ne se pose pas la question comment je vais faire une pomme. Il a des racines, et ces racines plongent dans de la terre, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, et la sève peut être dans cet arbre, et le résultat, c'est qu'il y aura un fruit, et là, la joie. Donc on découvre quand même une chose importante pour nous chrétiens. Est-ce qu'il faut se forcer à être joyeux ? Alors, il y a eu quand même ce que disait Joël tout à l'heure, il y a quand même un ordre de Dieu, réjouissez-vous. 50 fois dans la Bible, au moins, on trouve cette expression. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est à faire, ça, c'est à prendre. Mais d'un autre côté, c'est à notre disposition, non pas en le cherchant, mais en vivant une relation avec Dieu. Donc, ce Dieu qui m'a aimé, qui a donné son Fils, eh bien, il me propose de vivre, que je vive dans sa présence, et le fait d'être en contact avec lui, nécessairement je vais pouvoir avoir ce fruit-là, dont l'amour, la joie, la paix, etc. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Souvent, on se met comme un objectif, il faudrait que je sois. Et là, on est en train de découvrir que la source, nous l'avons, elle est à notre disposition. Dieu en nous. Et ce Dieu qui est joyeux, eh bien, il ne veut que ça. Hein, que notre vie soit une vie dans la joie, dans la joie de sa relation. Alors, bien sûr, on a expliqué que les circonstances peuvent être difficiles. C'est pas ce que je veux dire maintenant. Mais, voilà. Ne disons pas. Alors, la question se pose. Et je me suis noté quelques questions ici. Alors, peut-on se forcer à être joyeux ? Voilà, c'est une question quand même qui se pose. Mais être joyeux, ça dépend du caractère. Voilà, il y a des caractères qui sont joyeux, puis d'autres, c'était plutôt des caractères qui sont plutôt tristes. Ça, c'est possible. Mais là, ici, est-ce qu'il y a un problème de caractère ou pas dans ce qu'on vient de voir ? La source, elle n'est pas dans ce que je voudrais vivre, dans ce que je suis avec mes limites. Elle est en Dieu. Donc voilà, peut-être chacun de nous va percevoir les choses différemment, et je le comprends tout à fait. Mais je crois qu'il faut... Bon voilà, quand on étudie un sujet, quand on réfléchit sur un sujet, voilà, où est-ce que c'est ? Alors c'est en Dieu, et Dieu, voilà, il en a tellement qu'il le partage avec chacun de nous. Maintenant, voilà, celui qui croit. Donc comment faire, alors maintenant, pour pouvoir s'approprier pour nous-mêmes ce que Dieu met à notre disposition, et c'est peut-être aussi ça une réflexion qu'on peut avoir avec finalement voilà les versets qu'on a lus.
De façon très concrète, le Seigneur nous a donné à ses disciples un grand sujet de joie à l'avance dont il a parlé. Et je propose qu'on le lise dans Jean 16. Il annonce en fait sa mort et il annonce sa résurrection. Jean 16, verset 19, « Un peu de temps, vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps et vous me verrez. » Donc c'est la résurrection. « en vérité, je vous dis que vous vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. » C'est quand il sera mort. « Et vous vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera changée en joie. » La femme, quand elle enfante, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse. à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous ôte votre joie. C'était dramatique qu'il soit mort. C'était dramatique. Et quand on est séparé de quelqu'un, on aimerait qu'il ressuscite, on aimerait qu'il soit vivant, on aimerait qu'il soit encore là. C'était dramatique. Et en fait, 3 jours après, il y a un frisson qui a traversé tout Jérusalem et les environs. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Quand les disciples d'Emmaüs reviennent, Luc 24, et qu'ils reviennent en fait, ils ont rencontré le Seigneur, il s'est manifesté à eux, alors ils reviennent, et on s'attend évidemment à ce que ce soit eux qui racontent. Ils reviennent, ils retournent à Jérusalem, on s'attend à ce qu'ils disent « oui, oui, il est vivant », et en fait non, c'est eux qui sont reçus par les autres, ils trouvent assemblés les 11, et ceux qui étaient avec eux disant « le Seigneur est réellement ressuscité », et il est apparu à Simon. Le frisson de la source de joie qu'il est vivant. Tu as parlé tout à l'heure, être en relation avec un Christ vivant, ça part de la base. Et la base, c'est que il a été vu par ces gens-là, qui étaient tristes de l'avoir perdu, et ils l'ont retrouvé. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Hier, je crois que vous avez lu l'ascension. Mais le Seigneur est vraiment monté dans le ciel, là, dans un nuage. Il revient. Donc il y a une joie qui est centrale, qui est faite que celui-là, il est vivant. Et personne ne vous ôte votre joie. Et pour prendre maintenant dans la même comparaison, en faisant le lien avec, je n'ai pas le caractère joyeux. Alors il y a quelqu'un qui avait un caractère un peu ronchon, vraiment un mauvais caractère, ou en tout cas il s'était un peu dégradé avec l'âge peut-être, mais il était un peu dur à cuire, on va dire. C'était le vieux Jacob. Le vieux Jacob, dans toute la péripétie de Joseph, il veut rien croire, puis ça se passe mal avec ses fils. Toutes ces choses sont contre moi. Vous m'avez privé de mes fils, vous voulez encore me priver. Enfin, dur. Et les fils doivent se débrouiller avec leur vieux papa. Et on sait qu'à la fin, et ça fait le lien avec ce caractère négatif qui va se tourner par rapport à la foi de celui qui est vivant, et si on applique ce texte à la résurrection, on a à la fin de Genèse, chapitre 45, le moment où les frères disent au vieux papa, mais Joseph vit encore, verset 26. Même c'est lui qui gouverne le pays d'Égypte, mais son cœur resta froid et il ne les crut pas. Voilà comment on est quand on ne se réjouit pas, quand on ne croit pas, quand on engage, quand notre cœur reste froid et qu'on refuse finalement cet impératif, cette invitation à réjouissez-vous. Ah, vous ne serez que joyeux par rapport à la fête des tabernacles, qui est aussi l'impératif. Son cœur resta froid et il ne les crut pas. Mais ils lui dirent toutes les paroles de Joseph. Et on a déjà évoqué que la Bible va être une source de joie. Toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et notre joie ne sera pas ôtée parce qu'il est vivant.